Et bien le bonjour à vous. Bienvenue dans ce podcast Chercheurs d'habitude, un podcast qui parle d'habitude quotidienne, hein, bien évidemment, mais aussi de nos passions et de comment on va pouvoir les développer au jour le jour en fonction de notre situation. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie de la chaîne Mélodie Miroir. Bonjour Mélodie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super sympa.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu pourrais te présenter tu vas voir dans le podcast, on y va directement, donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais
Je m'appelle donc Mélodie, je suis une artiste multipassionnée, comme je dis, parce que je touche à beaucoup de choses. J'ai une chaîne YouTube où je partage essentiellement des vidéos autour de la créativité et du journaling, parce que je tiens pas mal de journaux. À côté de ça, dans la vraie vie, j'ai un boulot de moldu, comme je dis. Donc, je suis employée 4 jours sur 5 et je suis créatrice de contenu pour le web, donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et j'ai eu une formation de styliste. Donc, j'étais aussi styliste pendant 10 ans. Et maintenant, je fais plutôt l'art et la créativité plutôt comme hobby en plus de mon boulot de moldu. Donc voilà qui je suis. Et je suis aussi maman, voilà.
Mais quelque part, le boulot de moldu, il est quand même utile parce qu'il te permet d'avoir ton temps pour tes passions, quoi, quelque part.
Exactement. Donc, et c'est l'équilibre que j'ai trouvé finalement, c'est d'avoir un boulot qui paye les factures entre guillemets, mais qui me permet aussi de m'épanouir dans ma créativité et de pas avoir cette pression de ramener un salaire à la maison avec mon art entre guillemets.
Ok, très bien. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est un peu le journaling ?
Alors, le journaling, c'est simplement le fait de tenir un journal. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a plein de types de journaux différents. On peut tenir un journal intime où on va essentiellement écrire. On peut tenir un journal créatif qui va du coup être axé beaucoup plus créativité. On peut faire un art journal où là, on a vraiment exploré les techniques mixtes d'un journal. Il y a le junk journal où là, on va utiliser ce qu'il y a dans la poubelle pour faire un journal. Il y a le bullet journal pour s'organiser. Il y a vraiment plein de types de journaux. Et en fait, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, devenu une passion et un hobby. Et c'est un outil dont je peux absolument pas me séparer parce qu'il m'aide vraiment à m'épanouir tant sur le plan personnel que dans mon organisation. Voilà, je ne vois que des bénéfices au fait de tenir un journal.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand je suis tombé sur ta chaîne, c'était en mars dernier, je crois, en avril dernier. C'était sur la vidéo où tu présentais les différents types de journaux qu'on pouvait faire. Et ça m'a intéressé parce que souvent on entend parler que le journaling c'est simplement de l'écriture, tu vois, ou alors ça va être de l'organisation. Et toi j'aimais bien parce que tu vas au-delà avec le journal créatif, etc., etc. D'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu sur le journal créatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Alors je vais d'abord juste faire un espèce de... c'est pas spoiler, mais une petite déclaration avant, c'est que le terme journal créatif, je tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à César, c'est que c'est une marque déposée par Anne-Marie Jobin, qui est une créatrice canadienne et qui a donc en fait développé toute une méthode qui s'appelle le journal créatif et qui est donc cette marque déposée, qui consiste en fait à faire un petit peu de l'art-thérapie dans un journal avec des méthodes d'écriture, de collage, de dessin, etc. Maintenant, il s'avère que journal créatif, c'est quand même un terme relativement générique parce que le fait d'être créatif dans un journal, c'est un journal créatif. Donc moi, souvent, je dis creative journal en anglais parce que comme ça, voilà, il n'y a pas trop de confusion parce que je ne suis pas des méthodes d'art-thérapie dans mon journal. Mais du coup, le journal créatif, c'est simplement le fait, en tout cas pour moi, ma définition, c'est vraiment le fait d'être créatif dans un journal par des méthodes de techniques mixtes. Donc, du collage, du découpage, de la peinture. Moi, j'utilise aussi du tissu. Je vais venir coudre du tissu dans mon journal. Je vais coller du tissu. Parfois, je vais faire de la couture dans mon journal. C'est le fait aussi de mélanger aussi bien l'écriture et donc de répondre typiquement à des questions de journaling comme on peut en trouver dans les livres, comme venir raconter ses journées. Alors, il y en a certains qui apparentent ça un peu au scrapbooking. On n'est pas vraiment dans le scrapbooking parce que le scrapbooking, on est dans une recherche peut-être un peu esthétique. On utilise aussi pas mal de matériel dédié au scrapbooking. Il y a plein de magasins de loisirs créatifs. Là, pour moi, le Creative Journal, c'est vraiment le fait de venir explorer tout un tas de techniques dans un cahier. Et alors, ça peut être n'importe quoi comme cahier. Ça peut être un cahier à ligne, ça peut être un cahier d'aquarelle, ça peut être… voilà. Le principe, c'est juste d'avoir un cahier et de se lâcher un petit peu. Et je l'ai différencié un peu de l'art journal parce que l'art journal, pour moi, il y a vraiment la notion d'art dedans, la notion de peinture, la notion d'esthétique et de recherche de performance artistique dans un art journal que dans le creative journal. Enfin, la façon dont moi je le tiens, c'est vraiment hyper libre, quoi. Je peux très bien noter une liste de courses dans mon creative journal, comme raconter ce que j'ai fait ce week-end avec ma fille, comme venir faire un collage. Dessiner, voilà, c'est hyper libre, quoi.
Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que ben, c'est pas juste sur une seule chose, et comme tu l'as dit, c'est un peu explorer sa propre créativité et la laisser se déployer un petit peu sur ben, par l'écrit, par le dessin, enfin tout ce que tu viens de dire, quoi. C'est pour ça que je voulais vraiment axer là-dessus, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Même si, comme tu l'as dit, l'art journal, c'est intéressant aussi dans la recherche de la performance, dans la recherche entre guillemets de la beauté, enfin ce que tu trouves beau en tout cas intérieurement. Mais voilà, enfin bref. Autre question justement, qu'est-ce que ça t'apporte dans le quotidien, le fait de cette technique du journaling, ça t'apporte quoi dans le quotidien?
Bah déjà je vais reprendre les mots de Ryder Carroll qui a écrit le livre La méthode bullet journal. C'est une façon de prendre de mes nouvelles déjà, savoir comment je vais et ça me fait du bien parce que déjà les gens n'ont pas toujours l'occasion de prendre de tes nouvelles. Alors je suis pas une asociale finie, mais c'est vrai que bah tout le monde est occupé, tout le monde a une vie, tout le monde a un travail, des problèmes, une famille, un chien, un chat, peu importe. Et donc bah parfois on peut se sentir un peu seul et donc rien que le fait déjà d'avoir un journal où on peut vraiment écrire tout et n'importe quoi et sans filtre et déverser toutes ces émotions, c'est déjà ça m'apporte beaucoup de bien-être mental entre guillemets. Moi, je dis que tenir un journal, ça c'est justement pour ma santé mentale avant tout. Après, il y a plein d'autres bénéfices parce que ça permet aussi de s'organiser. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Alors, on a tous beaucoup de pensées, mais moi, dans ma tête, ça s'arrête jamais. Je veux dire, même quand je dors la nuit, je rêve énormément. Donc, c'est très difficile pour moi de...
Tu rêves en pensée.
Voilà. C'est très, très difficile de couper mon cerveau. Et donc, du coup, en fait, parfois aussi, j'ai du mal un peu à m'y retrouver parce que j'oublie des choses, parce que je pense tout le temps à plein de trucs. Et donc, ça me permet aussi de clarifier ma pensée, ça me permet de m'organiser, ça me permet de ne pas oublier des choses. Et puis après, il y a tout le côté apprentissage artistique. Le fait d'apprendre de nouvelles techniques, de suivre des tutoriels, de suivre des cours, et d'avoir en fait cette bulle et ce moment à moi en fait où c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis les règles. C'est pas un patron, c'est pas mon compagnon, c'est pas ma fille, c'est pas mes parents, c'est pas mes amis, c'est vraiment mon journal et moi et je suis hyper libre et c'est vraiment ma soupape de décompression. Donc ça m'apporte plein de bonnes choses en fait.
Très intéressant, c'est un peu comme si tu, pendant ce petit moment, tu reprends le pouvoir sur ta vie, entre guillemets, et tu deviens maîtresse de ta propre vie, quoi, quelque part. Alors que, comme tu l'as dit, dans la journée, on est toujours. Il y a des obligations de partout, on est obligé d'aller faire telle chose, telle chose, telle chose, etc. Et là, c'est très intéressant comment tu le présentes. Comment, si tu devrais le conseiller, enfin, pas forcément le journal créatif, mais. Ou le Creative Journal, comme tu as dit, ou même l'Art Journal, ou enfin peu importe, mais si tu devrais conseiller aux auditeurs comment le démarrer, comment le mettre en place au départ. Parce que ben, justement, avec nos vies à 100 à l'heure, ben, des fois se poser, bon, ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Donc, ouais, quel est le conseil que tu donnerais justement aux auditeurs pour commencer le journaling?
Bah déjà de s'acheter un cahier ou de prendre un cahier qui traîne à la maison. Non, mais je conseillerais déjà simplement de se prendre un tout petit carnet. Ils en vendent parfois des vraiment tout petits, genre 10 cm sur, enfin, 10 sur 10 ou 10-15 ou la taille d'une carte postale. Il y en a plein en plein de magasins, de se prendre un tout petit cahier comme ça déjà et de le glisser dans sa poche de son jean si on est un homme et qu'on n'a pas de sac, dans son sac à main si on est une femme et qu'on a un sac à main, ou même s'il y a des hommes qui ont des sacs, mais un petit truc qui tient partout dans la poche de sa veste ou déjà de commencer simplement à noter des petits trucs comme ça et pas commencer à réfléchir à est-ce que c'est utile, est-ce que ça va me servir. Surtout en fait couper cette question de à quoi ça sert en fait, parce que je pense que souvent c'est ça qui bloque, c'est mais ça sert à rien. Et en fait bah non, il n'y a pas d'utilité comme par exemple une paire de ciseaux, ça sert à couper. On vit dans un monde, je pense, où on cherche toujours une utilité aux objets qui nous entourent et aux activités qu'on fait. Et donc déjà c'est d'essayer de couper cette question-là et juste je sais pas, aller dans la rue et noter par exemple 5 choses qu'on a vues pendant la journée, tout simplement, et voir déjà ce que ça fait, quoi. Qu'est-ce que ça fait de noter et de le faire, je sais pas, moi, pendant une semaine et de noter juste 5 choses et de prendre juste, même, c'est même pas 5 minutes parce que noter 5 choses, ça prend 1 minute, quoi. Et puis à la fin de la semaine, peut-être justement, peut-être faire un petit bilan de 5 minutes, peut-être même se mettre un petit chronomètre et on serait vite surpris de voir que parfois on se dit, je le fais que 5 minutes et je me force à faire 5 minutes. Après 5 minutes, j'arrête. Et après, on est dans l'élan et on se dit, ah, mais c'est que ça, 5 minutes? Ben, ça va, en fait, je continue.
C'est ça.
Et donc, on est parti pour 10 minutes, 15 minutes. Et donc, juste déjà commencer avec quelque chose qui n'a pas de valeur, un cahier qui n'a pas de valeur. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je commence n'importe lequel de mes projets. Quand je ne suis pas sûre que je vais aimer, que je vais continuer, ben, je prends quelque chose qui n'a pas de valeur. Ou alors, moi-même, je me fabrique parfois des petits journaux comme ça. Je prends 2, 3 feuilles. On peut facilement se fabriquer un journal avec du papier d'imprimante si on n'a pas envie d'aller dépenser ses sous là-dedans. Mais de prendre un petit truc et de se dire, voilà, j'essaye juste pendant une semaine, quoi, et je vois après un peu comment ça fonctionne. Et un autre conseil que je donnerais aussi, c'est important aussi de choisir quelque chose dans lequel on se sent confortable, parce que c'est bête, mais parfois un bic ou un stylo, ça n'écrit pas comme on veut parce qu'il y en a qui grattent plus que d'autres, il y en a qui glissent plus que d'autres, et donc du coup ça peut bloquer parce qu'on n'a plus l'habitude d'écrire à la main. On est tellement sur
Oui, je suis tout à fait d'accord.
nos téléphones et nos claviers, nos ordinateurs qu'on a perdu cette habitude. Et oui, ça peut faire mal parfois d'écrire à la main, ça fait mal aux poignets, tout ça. Donc de choisir un carnet ou d'essayer plusieurs stylos, plusieurs, parfois c'est peut-être aussi un marqueur qu'on aura besoin, ce sera peut-être un crayon, ce sera peut-être autre chose, et de pas se limiter, de se dire, ah oui, mais ça m'embête parce que ça gratte, c'est pas confortable, le papier transperce, nanana. Donc parfois c'est aussi juste ça qui est un petit frein. Donc ce serait mes conseils pour quelqu'un qui veut débuter.
Moi, souvent, je dis, c'est d'aller au plus simple, quoi. Ne pas se prendre la tête et juste, comme tu l'as dit, on prend un petit cahier, peu importe ce que c'est, et on écrit dessus ce qui nous passe par la tête. On fait ça 1 minute, puis après, c'est bon, quoi.
Exactement.
Mais, d'accord, bah, très bien. Si on revient un peu au niveau des habitudes, c'est quoi pour toi une habitude quotidienne?
C'est une très bonne question. Je dis toujours que j'ai pas d'habitude, mais pourtant j'en ai plein. Le simple fait de me brosser les dents, c'est une habitude. Le simple fait de manger, de préparer à manger, de préparer mes vêtements. Après, en termes de créativité et de journaling, j'ai pas vraiment d'habitude parce que ça, c'est quelque chose qui peut me bloquer, de me dire tous les jours, je dois le faire. De 18 à 19 heures, en fait, ça va complètement me bloquer, me laisser sur place. Donc, je préfère me dire que je suis hyper libre de le faire quand je veux, comme je veux. Je suis un peu un petit cheval sauvage. Moi, j'aime pas trop qu'on me mette dans une cage et qu'on me mette des étiquettes sur le dos. Après, c'est vrai qu'à force de le faire, j'ai effectivement développé des habitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'avère que mon emploi du temps, parce que je suis maman, va faire que ça va être souvent le soir, après manger, quand tout le monde est repu, quand tout le monde dort, que je vais avoir le temps pour moi de le faire. Et c'est des questions de préférence aussi. Par exemple, j'ai pas envie de me lever 1 heure plus tôt le matin pour commencer à écrire dans mon journal, parce que le matin, pour moi, c'est précieux et j'ai envie de dormir. Donc, je suis pas quelqu'un qui va faire du miracle morning. Mais en termes de créativité, j'ai pas envie de me fixer des routines et des habitudes parce que j'ai trop peur que ça me bloque, que ça me mette dans des cases et que je me dise je dois faire ça. Et souvent, en fait, quand je me mets par exemple dans des challenges créatifs ou Typiquement, en octobre, il y a Inktober et ce genre de choses. C'est quelque chose qui, chez moi, ne fonctionne pas du tout. Le fait de me dire, je dois tous les jours faire ça. Et à l'inverse, justement, le fait d'enlever ses habitudes et ses routines, eh ben, c'est contradictoire, mais je vais le faire tous les jours sans que j'ai besoin de me le rappeler.
C'est peut-être parce qu'aussi ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur quelque part. Alors que comme tu l'as très bien dit, enfin, quand tu as commencé avec ton emploi du temps, etc., finalement ton habitude maintenant tu l'as créée quelque part. Et alors que ben là, Inktober, etc., enfin, toutes les habitudes courantes du mois d'octobre, ben, c'est quelque chose d'extérieur qui vient à toi et qui t'oblige un peu à te dire bon ben voilà, maintenant il faut que tu le fasses tous les jours, débrouille-toi et fais-le tous les jours, quoi.
Oui.
Tandis que quand tu choisis, en tout cas j'ai l'impression hein, que quand tu choisis, quand je dis tu, c'est moi c'est pareil, hein, quand je choisis vraiment de faire quelque chose, ben finalement au bout d'un certain temps ça va devenir une habitude et je vais souvent la faire pas forcément à la même heure, mais dans une tranche d'heure par exemple, etc. Parce que ben, c'est comme ça vient comme ça naturellement, quoi, quelque part.
Oui, après, je pense qu'il y a quand même au début, tout au début, quand on a une nouvelle pratique qu'on ne connaît pas du tout et que on apporte quelque chose de nouveau dans notre vie, je pense qu'au début, il faut effectivement un petit peu se forcer.
Ah bien sûr.
Je prends un bête exemple, mais j'essaye de me forcer de nettoyer l'évier chaque fois que je me brosse les dents parce qu'il y a de l'eau partout. Donc, j'ai mis une petite éponge là pour sécher mon évier. Et je sais qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude se forme. Donc, je me dis, allez, tiens bon, parce qu'une fois que ce sera appliqué dans ta routine, tu ne le sentiras même plus passer. Par exemple, se brosser les dents, on ne se rend même plus compte qu'on le fait tous les matins et tous les soirs.
C'est ça, c'est un automatisme. Ouais.
C'est devenu un automatisme. Et je pense que maintenant, mes journaux, c'est ça, c'est devenu juste un automatisme. J'ai juste, bah voilà, je le fais, c'est tout, c'est comme ça. Donc, au début, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de se forcer à faire quelque chose et d'y prêter attention. De se dire, bah, effectivement, je vais voir quel est le moment qui me paraît le plus confortable. Et il y a des gens, ça va être le matin, parce qu'ils sont des gens du matin. Il y a des gens, ça va être le midi, parce que voilà. Il y a des gens, ça va être à 4 heures, parce que justement, à 4 heures, ils prennent les transports en commun, et qu'à ce moment-là, ils ont 20 minutes à tuer. Et au début, ça va être un petit peu se forcer. Et puis après, une fois que c'est établi dans la routine, justement, bah, ça vient tout seul, quoi.
Une de mes prochaines questions allait être tes habitudes. Enfin, si tu devais choisir une de tes habitudes quotidiennes, ça serait quoi? Mais bon, tu nous as à peu près répondu sur le fait que, bah, bon, voilà. Donc,
Oui, voilà. Oui, enfin, les habitudes, c'est très large parce que, comme je dis, il y a des habitudes qu'on a forgées sans même s'en rendre compte depuis qu'on est petit, qui sont là et qui sont instinctives. Se brosser les cheveux, se brosser les dents, prendre sa douche, s'habiller, faire à manger, faire les courses, ce sont des choses qu'on ne calcule plus.
mais tu vois, moi, quelque part, ce genre d'habitude, je les différencie vraiment des habitudes entre guillemets plus créatives, dans le sens où se brosser les dents, enfin se prendre la douche, etc., etc. Comme on l'a dit, c'est devenu des automatismes. Et donc, pour moi, c'est vraiment différent d'une habitude que tu as envie de développer. Comme là, si on prend l'exemple, ben voilà, ben, il y a un auditeur, il veut développer le journaling parce que ben, il a envie de. Voilà, d'essayer, en tout cas, déjà, la base, c'est juste d'essayer. Et je trouve que c'est deux sortes d'habitudes différentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Mais c'est un peu difficile pour moi de parler d'habitude en termes de journaling, parce que par exemple, donc je tiens un journal intime vraiment, alors là, typiquement de l'écriture depuis que j'ai 14 ans. Et donc, j'en ai 39 aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 20 ans que je tiens ce journal. Et c'est pour moi une habitude qui est ancrée dans ma vie, mais pourtant, je le fais pas de manière du tout régulière. C'est-à-dire qu'il peut se passer parfois 6 mois sans que j'écrive rien dedans. Et puis un soir, je vais dire, tiens, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écrit, et puis je vais de nouveau écrire tous les jours dedans, et puis après une fois par semaine. Et donc il y a pas vraiment une habitude qui se crée. Par contre, l'habitude qui va être ancrée par rapport à ce journal-là en particulier, ça va être toujours le soir dans mon lit avant d'aller dormir, par exemple.
Oui, c'est ça.
Parce que ça va être le moment calme, ça va être le moment où justement on peut se déposer, où ça va être, par exemple, ben, ce soir, j'ai pas envie de regarder des écrans ou quoi, ben, du coup, je vais le faire avant d'aller dormir pour décompresser. Donc, je trouve ce terme habitude parfois un peu, je vais dire galvaudé, parce que
Mais il englobe un peu tout.
c'est ça, ça peut être tout et rien à la fois, et voilà, j'ai des habitudes sans en avoir, en fait.
Ok, bah très bien. Merci en tout cas pour tes réponses. Nouvelle question. Comment on amène de la créativité dans son quotidien?
Déjà, il faut en avoir envie. Et déjà, il faut aussi définir ce terme créativité. Parce que je pense pas que être créatif, c'est juste peindre, dessiner, faire de la musique. Ça, ce sont des arts créatifs. Mais si on regarde un petit peu la définition de la créativité, ça va être trouver des solutions à des problèmes. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Donc déjà, je pense qu'il faut, il faut, si on veut amener de la créativité en termes de tout ce qui est justement peindre, dessiner, écrire, faire de la musique, il faut vraiment définir ce qu'on a envie et pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie d'impressionner quelqu'un, sa famille, ses amis, les réseaux sociaux? Est-ce qu'on le fait parce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie d'apprendre quelque chose? Et à partir de là, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Déjà, il n'y a pas de jugement quoi. Il faut être honnête avec soi-même. Et à partir de là, je pense que ça va être beaucoup plus facile de justement introduire cette créativité et ce médium, je veux dire, dans sa vie, c'est de comprendre pourquoi. Moi, je sais que par exemple que quand j'ai commencé parce que j'ai eu une longue période où j'ai rien fait, enfin rien, j'ai rien fait de mes 10 doigts de dessin et de peinture et tout ça. Je crois pendant 4 ans, j'ai pas fait grand-chose autour de la naissance de ma fille. Enfin, avant la naissance de ma fille. Et je sais que quand j'ai recommencé, c'était parce que, entre guillemets, je m'ennuyais, quoi. J'avais des périodes comme ça où je m'ennuyais un peu et j'avais plus trop envie de regarder la télé ou d'être. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me trouver une activité qui me permet de passer le temps, mais qui aussi me demande pas trop d'être dans l'intellect, par exemple lire, parce que enfin moi quand je lis, je suis vraiment concentrée sur mon livre et on peut pas me déranger. Et quand on est parent, on est constamment dérangé. Donc voilà, donc il me fallait une activité où je pouvais être dérangée, que c'était pas grave quoi. Et tenir un journal, voilà, si je suis dérangée, c'est pas grave. Si je suis... Donc c'est important de connaître son pourquoi. Et puis après, de pas avoir peur d'essayer, parce que parfois on va pas trouver tout de suite. La passion, le hobby, l'activité qui nous plaît, et c'est aussi OK, quoi. Je veux dire, on a le droit de changer d'avis, je veux dire. Peut-être que ça va pas du tout convenir à certaines personnes de tenir un journal. Et c'est pas grave, on change, et puis voilà. C'est que de la créativité, en fait.
Est-ce que tu dirais que c'est quand même important d'avoir une activité créative dans son quotidien?
Moi, je trouve, oui. Peu importe l'activité créative que c'est, parce que, par exemple, j'estime que lire, c'est une activité créative.
Bien sûr, bien sûr. Avec l'imagination, etc.
Voilà. Je pense que c'est important, oui, parce que derrière ça, il y a plein d'autres domaines. Ça vient toucher plein d'autres domaines, en fait. La créativité, ça vient aussi toucher le domaine spirituel, peu importe, je parle pas spécialement de religion ou quoi, mais ça vient toucher aux croyances, ça vient toucher au domaine de l'apprentissage. Ça vient toucher au domaine du bien-être, ça vient toucher au domaine des relations aussi, parce que enfin, en fait c'est vraiment un cercle vertueux qui s'enclenche. Et je pense qu'on a tous besoin de comme je disais un petit peu au début, de cette soupape de décompression, de cette bulle en dehors de toutes les obligations qu'on a, parce qu'on a beaucoup d'obligations dans la vie actuelle, sauf si on a décidé de vivre dans une montagne. Au fin fond de l'Himalaya et d'élever des chèvres, alors là, on n'a pas du tout d'autres
Même ça,
obligations.
quelque part, il y a des obligations parce qu'il faut quand même sortir les. Enfin, c'est ça, promener les chèvres, enfin, promener, c'est pas les promener, mais bon,
Voilà.
les pâturages, etc.
Donc je pense que c'est exactement. Et je pense que c'est bien d'avoir ce milieu dans notre vie, de nouveau, peu importe, hein, la musique, l'art, la lecture, peu importe, où on est libre de faire ce qu'on veut et comme on a envie de le faire, quoi. Et où on s'impose pas des règles. Et c'est parfois un peu ce que je reproche à beaucoup de milieux artistiques. C'est toute cette notion de règles, un peu lourd comme ça, et de faire croire aux gens que c'est réservé à une seule catégorie, l'oreille absolue, les artistes peintres. Alors qu'en fait,
C'est ça, selon les domaines, ça des fois la barrière à l'entrée, elle est tellement grande que même intérieurement, tu te dis, je vais pas y aller, ça va être trop compliqué. Pour prendre un exemple, moi, j'ai fait 15 ans 14 ans de piano quand j'étais jeune. Et à un moment, bah, tout seul, j'ai voulu apprendre le violon et on m'a direct dit, non mais le violon, ça va être hyper compliqué pour toi, c'est pas du tout pareil, etc. Même si tu connais le solfège, etc., etc. Et finalement, j'ai essayé. Ça a duré quoi, 6 mois. Et finalement, après, je me suis dit, ben ouais, mais je suis pas fan finalement de l'apprentissage du violon. Donc j'ai essayé, ça m'a pas convenu. Puis je suis revenu au piano, à la guitare, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que le fait d'essayer, c'est vraiment la base, le principal, quoi. Même si la barrière d'entrée peut être compliquée. Et c'est vrai que ben, si je reprends cet exemple, le violon, la barrière d'entrée, elle est plus difficile que pour le piano, parce que pour sortir une note, c'est plus compliqué. Mais si ça coûte rien d'essayer, maintenant on peut louer des petits instruments comme ça pour pas très cher. Enfin là, je prends l'exemple de la musique parce que moi, c'était vraiment ça, ma fibre créative, elle est plus là-dedans. Même si j'adore dessiner, j'adore peindre quand même, mais disons que moi je suis plus là-dedans. Et en plus, ben, le fait de dessiner et peindre, c'est beaucoup moins cher. La barrière à l'entrée, elle est plus facile, je vais dire ça comme ça. Enfin voilà, je terminerai. Ok. J'ai vu aussi sur ton site que tu voulais rendre l'art accessible. C'est quoi pour toi rendre l'art accessible?
Ben, c'est exactement ce que je disais. Alors moi j'ai une formation de styliste et je me souviens que quand j'ai dit à ma mère que je voulais être styliste, c'était déjà il y avait des énormes clichés sur la mode et les artistes. Oui, tu vas finir sous un pont, drogué, avec des cheveux rouges. Déjà, bon, c'est un cliché qui n'est pas du tout accessible. Voilà, je veux dire, ça c'est une partie de l'art. Mais après, il y a justement toute cette notion des beaux-arts. Et j'ai un jour eu une conversation avec une personne sur les réseaux sociaux qui disait que dans les beaux-arts, les profs enseignaient à leurs élèves que les beaux-arts, là, c'est avec un B majuscule et un A majuscule, pour dire que ce sont des techniques particulières et que n'importe qui ne pouvait pas se prénommer artiste. Et ça me dérange profondément cette notion-là, pour la simple et bonne raison aussi qu'il y a 50 ans de ça, les femmes n'étaient pas admises aux beaux-arts. Même il y a 100 ans de ça, entre 50 et 100 ans de ça. Et donc, je trouve que c'est pas. Voilà, moi je veux que ce soit accessible à tous. Enfin, tout le monde peut faire de l'art, tout le monde peut peindre, tout le monde. Et on ne parle pas de compétences techniques. Alors, effectivement, il y a des techniques qui s'apprennent. Par exemple, la peinture à l'huile, c'est tout un tas de techniques. Mais ce n'est pas parce que tu n'utilises pas la peinture à l'huile de la bonne manière que tu n'es pas un artiste. Et justement, dans l'art, il y a par exemple Jean-Michel Basquiat qui a rendu l'art brut assez célèbre, qui en faisait qu'à sa tête et qui faisait n'importe comment et qui faisait ce qu'il voulait. Et pourtant, c'est un grand artiste. Et donc, c'est ça, en fait, c'est que. Souvent, je me rends compte quand j'ai des discussions avec les gens de ma communauté aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils disent oui, je sais pas faire. Et donc, du coup, je sais pas faire, donc je fais pas quoi. Je suis pas une artiste ou je suis pas un dessinateur. Mais en fait, il n'y a pas de savoir-faire ou de pas savoir-faire. En fait, il faut juste prendre le matériel et il y a deux possibilités. C'est soit bah, on essaye soi-même et on apprend soi-même et puis on voit un peu. Soit bah, on prend des cours et voilà quoi. Après, il y a aussi une autre notion d'accessibilité qui est importante pour moi, c'est tout l'aspect financier et pécunier de l'art. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, et ma maman, quand j'étais plus jeune, elle n'avait pas l'occasion de se payer des cours parce que ça coûtait très cher, des cours de. Son rêve, c'était de faire du patchwork. Et elle a dû attendre qu'on soit tous partis de la maison et d'être à la retraite pour pouvoir prendre ses cours de patchwork. Et quand j'ai vu le bonheur sur le visage de ma mère de faire du patchwork et la façon dont on en parle et la passion qu'elle a pour cette couture et tout ça, je me suis dit, mais c'est triste que ça n'ait pas été rendu accessible pour elle parce qu'elle avait un plus petit budget. Et je trouve ça très dommage parce que de nouveau, ça devient très élitiste, les cours d'art, les beaux-arts tout court, même les cours en ligne. Voilà, je trouve que. C'est une pratique qui fait tellement du bien, qui apporte tellement de. Enfin, qui, moi, en tout cas, m'a apporté tellement de bonnes choses dans ma vie, que je voudrais que, voilà, que ce soit accessible à tout le monde, peu importe son âge, peu importe ses origines, peu importe son budget, peu importe si on est une femme, un homme. Voilà, ça doit être pour moi de l'ordre de la santé publique.
Finalement, la meilleure solution, c'est comme tu disais au début, c'est juste d'essayer quoi. Juste d'essayer et puis après juste de suivre son ressenti sur telle pratique ou telle autre, et d'en essayer une autre si la première convient pas, etc., etc.
Exactement. Et puis après, il y a des techniques qui sont classiques et qu'on peut faire de manière classique, mais c'est pas parce que on a dit que justement la peinture à l'huile, elle devait être utilisée comme ça, qu'on peut pas la mélanger avec de l'aquarelle. Je veux dire, pourquoi pas, il n'y a pas de...
Après, quand on est seul face à la toile ou face à la feuille, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Bien sûr, il y a des techniques, voilà, comme tu dis, mais...
Exactement. Et puis après, je pense que c'est ça aussi qui va définir qui on est en tant qu'artiste, la façon dont on utilise les différents médiums. Et puis de nouveau, il y a des choses qui vont nous paraître confortables, des choses qui vont pas, enfin, qui vont nous paraître pas du tout confortables. Parce que moi, par exemple, j'ai essayé la peinture sur toile à l'acrylique, c'était une catastrophe. Enfin, je m'énervais à chaque fois et j'éprouvais aucun plaisir à ça. Ben voilà, ok, ben ça m'a pas plu. Ben je le fais dans mon journal, je le fais n'importe comment et comme ça me plaît. Et le principal, c'est que je me sente bien, quoi. Je veux dire, de nouveau, on a déjà tellement de contraintes dans la vie et tellement de choses qui nous font nous sentir mal que si on peut se trouver son petit coin de paradis à travers l'art, la créativité, tout ça, ben allons-y, quoi.
Je suis tout à fait d'accord. J'aimerais qu'on termine par ce que j'appelle des questions rapides. Tu as dû peut-être déjà voir ça. Enfin, en gros, c'est pas vrai. Ouais, c'est des petites questions, ou alors des fois c'est des choix. Enfin, voilà. Et j'aimerais, bah, enfin, j'aimerais. Tu fais comme tu veux, mais bah, c'est pas mal d'essayer de répondre le plus rapidement possible. Tu vois, la première chose qui te passe par la tête. Même si ça n'a pas de rapport avec la question.
D'accord, l'instinct, quoi.
Enfin, ouais, voilà, c'est ça, à l'instinct. Parce que tu verras que, ben voilà, je te dis pas trop, mais tu verras que des fois, c'est des petits dilemmes, entre guillemets, mais t'es pas obligé de choisir quelque chose. Tu fais vraiment comme tu sens et ce qui vient sur le moment, quoi.
Ok, la spontanéité.
Ouais, c'est bon?
Oui.
Alors, lire ou écrire?
Écrire.
Dessiner ou peindre?
Peindre.
Planifier ou agir?
Agir.
Si t'étais un animal, tu serais quoi?
Un chat.
Ton moment de la journée préféré?
Oh, dur. Oh, dur. Bah, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je dirais le matin.
Une couleur favorite?
Le bleu.
Crayon, feutre ou stylo?
Crayon, feutre ou stylo? Crayon.
Coller ou découper?
Oh, ça c'est dur, les deux. Coller et découper. Coller et découper, ça, l'un ne va pas sans l'autre.
Ta boisson du matin?
Un café au lait.
T'écoutes quoi en ce moment?
Un album de Kate Nash. Je ne sais plus de quelle année, mais un tout vieux, son premier album.
Penser ou ressentir?
Ressentir.
Parler ou écouter?
Écouter.
Créer ou réfléchir?
Créer.
Ton médium préféré?
Bah, la peinture.
Un courant artistique intéressant?
L'art brut.
La tranquillité ou la rapidité?
La tranquillité.
Connaître la vérité ou vivre sa vie sans se poser de questions?
Vivre sa vie sans se poser de questions.
Apprendre ou pratiquer?
Apprendre.
Comprendre l'histoire ou aller de l'avant?
Comprendre l'histoire.
Et pour finir, partager sa passion ou explorer le silence?
Partager sa passion.
Bah, merci en tout cas, Mélodie, pour ce moment passé ensemble.
Avec grand plaisir.
Si cet échange vous a intéressé, que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à le partager. Et puis, bah, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à dire aux auditeurs ou une recommandation à faire, un livre, une série, enfin bref, peu importe.
Un livre, ça je peux recommander un livre. Pardon, je bégaye. Un livre que je voudrais recommander, c'est le livre d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie, qui traite vraiment bien de la créativité et qui déculpabilise. Moi, c'est ma Bible. Et puis après, j'ai juste envie de dire allez-y, quoi. Faites-le, trompez-vous, c'est pas grave, c'est que de l'art. Et pour reprendre justement les mots de ce livre, c'est que l'art, c'est un peu de la décoration pour l'esprit. Donc, tout va bien.
Merci beaucoup. Et puis, ben, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À bientôt.